Bonjour Cédric, pouvez-vous vous présenter?
Bonjour, je suis Cédric Tesser, donc je suis artiste. Je suis cofondateur de la station qui existe depuis 1996 et qui est installée aux anciens abattoirs depuis 2009. Et j'ai été aussi directeur artistique pour la programmation du 109 de 2016 à 2018. Et depuis 2018, je suis conseiller artistique pour le développement du projet. Et en autre chose, je suis aussi cofondateur du réseau Botox, qui est le réseau d'art contemporain de la ville de Nice, et au-delà de la ville de Nice, parce que maintenant ça s'étend jusque dans les Hautes-Alpes et en Italie. Et je suis enseignant aux Beaux-Arts de Toulon, en enseignant en peinture. Voilà.
Pouvez-vous me dire ce que c'est que la station?
Alors la station, c'est un espace d'artistes autogéré, ou internationalement on dit un artist run space. C'est-à-dire que c'est un projet qui s'est fédérés autour d'artistes qui vont donc inventer ce projet, le construire et en même temps le gérer et assurer toutes les phases de développement que nécessite une telle entreprise. Donc la station s'est inventée en 1995-96. On était trois artistes à avoir repéré une ancienne station-service en centre-ville, au boulevard Gambetta, dans laquelle on s'était dit, c'était un beau bâtiment des années 60, on s'était dit ça serait bien de pouvoir y faire des expos dedans et éventuellement de faire une expo collective et puis peut-être de faire un peu plus que ça. Et ça appartenait au CHU de Nice, donc je vous la fais très courte, mais le CHU de Nice a accepté de nous prêter jusqu'à ce que ce soit démoli parce qu'il y avait un projet immobilier sur ce terrain. Donc c'était le quartier La Buffa à Gambetta. Et quand on a eu les clés de ce bâtiment, on est rentré, on s'est aperçu qu'on pouvait faire non seulement des expos mais aussi des ateliers. Et donc, on a créé une association pour pouvoir être opérationnel légalement. Et on a commencé à faire une première exposition qui s'appelait Starter, où on a fait une grosse expo collective très, très généreuse et très festive, qui a tout de suite attiré beaucoup de monde, et notamment la DRAC et la région, qui nous ont aidés assez rapidement financièrement pour qu'on puisse gérer ce lieu. Et le CHU aussi était très content de cette activité qui se développait. Et ce qui fait qu'on a pu faire perdurer ce projet jusqu'à maintenant, donc depuis 96 jusqu'à nos jours, là ça fait déjà 24 ans bientôt, en changeant bien sûr plusieurs fois de locaux, puisque le deal avec le CHU c'était d'occuper leurs locaux jusqu'à ce qu'ils soient démolis. Donc la première station devait rester à peu près 6 mois debout et être démolie, mais finalement ces 6 mois se sont transformés en 3 ans. Ensuite, on a eu des appartements en centre-ville pendant 4 ans, toujours prêtés par le CHU, qui étaient les anciens laboratoires d'analyse. Et ensuite, le CHU nous a prêté une ancienne maison de retraite pour déshérités qui était la fondation Dabré, rue Molière, toujours en centre-ville. Là, c'était le quartier Libération. Donc, c'était une grande maison de 700 mètres carrés avec un grand terrain de 3000 mètres carrés qu'on devait garder 3 ans et que finalement, on a gardé 6 ans, puisque leur projet immobilier, une fois de plus, prenait du retard. Et ce qui fait que voilà, pendant ces 12 années, on a développé un projet qui s'est construit au fur et à mesure de l'expérience qu'on en avait et qui s'est aussi développé par rapport au réseau qu'on a pu se constituer grâce à cette capacité qu'on avait d'accueillir des projets artistiques dans ces locaux-là. Parce que l'idée, bien sûr, du départ, c'était que nous, en tant qu'artistes issus de la Villa Arson, puisqu'on était tous diplômés de la Villa Arson, c'était qu'on puisse trouver un lieu de travail, donc des ateliers, principalement, hein, puisque c'était ça notre objectif quand même, et aussi pouvoir créer de l'activité professionnelle autour de l'art. Parce qu'à Nice, c'est très compliqué, c'est une des places artistiques très très en pointe en Europe, ou même dans le monde, enfin, c'est vraiment une place très connue, où il y a vraiment beaucoup d'avant-garde qui se sont déroulées et qui continuent de se dérouler. Il y a la Villa Arson, qui est une école d'art internationale de très haut niveau, avec une des meilleures de France et une des meilleures d'Europe, avec un centre d'art en plus aussi qui est très vu. Mais malheureusement, quand on était diplômé de cette école, ben, on n'avait que le choix de partir, quoi. Et ce qui était ne reflétait pas un peu le dynamisme artistique de cette zone, quoi, de Nice. Et nous, on était quelques artistes à pas vouloir obligatoirement partir, en tout cas à pas vouloir déménager totalement, mais de pouvoir continuer à faire vivre ce dynamisme artistique et à continuer à travailler sur la contemporanéité de l'art et sur sa création expérimentale dans une ville comme Nice. Le problème est donc c'est que la pression immobilière est très forte, il n'y a pas de friche industrielle, donc c'était très difficile de trouver des ateliers. Et ça a été une solution qu'on s'est trouvée, qu'on s'est inventée, sans vraiment le savoir au départ qu'on allait faire ça, mais finalement. Il s'est avéré qu'au fur et à mesure de l'expérience qu'on en avait, eh bien on a créé en fait une professionnalisation et une plateforme qui manquait pour la jeune création émergente et pour les jeunes diplômés. Mais aussi, ça ne nous empêchait pas de travailler avec des artistes plus confirmés, ou voire très confirmés comme Ben, par exemple, ou Olivier Mousset, ou John Armleder. Enfin voilà, et puis des artistes internationaux. Et pour nous, ce qu'on avait à cœur, donc ce que je disais au départ, c'était que cet espace d'expo soit ouvert à des gens de l'extérieur, qu'on fasse venir des artistes d'ailleurs et qu'on leur offre un accueil privilégié pour leur montage de l'expo et qu'ils puissent monter l'expo de leur rêve, vraiment l'expo sans contrainte économique qu'on peut trouver dans les galeries, ni contraintes commissariales comme on peut trouver dans des musées ou dans des centres d'art, mais que là, ce soit vraiment l'artiste qui ait le dernier mot sur la façon dont il monte son travail, que ce soit des expos personnelles ou des expos collectives, avec le soutien d'artistes résidents qui vont apporter leurs compétences, c'est-à-dire certains savent travailler l'électronique, d'autres sont bons en maçonnerie, d'autres en bois, d'autres en vidéo, d'autres en informatique, et tout ça fait que c'est un travail collectif pour une œuvre d'exposition et l'idée d'un artiste ou des artistes qu'on invite.
Pouvez-vous me parler de l'exposition du moment ?
Alors, c'est une exposition de Brice Delsperger. Donc, cette année, on a voulu faire pour l'été une expo personnelle qui se connectait avec le projet de la commémoration des 100 ans de la Victorine, donc de cette odyssée du cinéma. Et Brice Delsperger, c'est un artiste qui a une grosse quarantaine d'années, là, et qui travaille sur l'objet filmique, c'est-à-dire qu'il va refaire des films ou des scènes de films avec des moyens vidéo, avec des acteurs différents, mais il va garder le découpage et le son des films dont il s'inspire. Donc il a beaucoup... il en est à son 36e Body Double, donc c'est le nom de cette série qu'il mène depuis maintenant une vingtaine d'années. C'est-à-dire Body Double, c'est le nom générique de toutes les œuvres vidéo qu'il réalise en s'inspirant de films existants. Donc par exemple, il a refait entièrement L'importance est d'aimer de Brian De Palma, Zulawski. Il a refait entièrement, il a refait des scènes de films de Stanley Kubrick, il a refait Carrie. Enfin voilà, il va les s'inspirer dans l'histoire du cinéma de films qui sont pour lui notoires et qui correspondent aussi à sa vision du cinéma et de l'art. Et il va les refaire avec les moyens vidéo. Et par exemple, L'importance est d'aimer, il y a un seul acteur dans tout le film qui fait tous les rôles, c'est Jean-Luc Vernat, qui est aussi un artiste. Et il va donc travailler le système trucage qu'on peut trouver en vidéo et faire des plans superposés, mais en gardant exactement la découpe, le découpage et le montage du film originel. Et ce qui donne des œuvres très, très incroyables et très atypiques et montre aussi que la matière cinéma peut être une matière qui se retravaille. Donc là, l'exposition ici s'appelle « L'âge du double ». Et en parallèle, on a travaillé avec la Ville Arson, puisqu'il a été du coup en résidence à la Ville Arson cet hiver pour créer un nouveau film. Enfin non, l'exposition s'appelle Fucking Perfect, mais sa vidéo est issue d'un film qui s'appelle Perfect, avec John Travolta. En fait, c'est une scène à un moment donné de fitness dans une salle entièrement couverte de miroirs, qui est assez torride. Et dont il a refait exactement, il a refilmé exactement cette scène avec d'autres acteurs, et il a fait ça à la Galerie Carré, donc qui est la galerie principale de la Ville Arson, et le film est présenté dans la Galerie Carré, et en plus est dédoublé puisque l'image est doublée en symétrie plus miroir au sol, ce qui fait que l'image est quadruplée, ce qui fait une installation assez vertigineuse. Je voulais juste finir en disant que à la station, moi, ce que je désirais faire avec lui dans ce projet, c'était qu'il montre un peu une rétrospective de tout son parcours. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu la création d'une nouvelle vidéo à la Ville Arson. Et à la station, c'est un travail un peu plus rétrospectif où il y a une quinzaine de ces vidéos qui sont installées sous différentes formes, soit des vidéos projections, soit sur des écrans. Et aussi tous les éléments de travail qu'il utilise pour pouvoir réaliser ses vidéos, donc ses storyboards, ses dessins, ses timelines, et aussi des éléments photographiques et des gouaches. Donc c'était pour montrer un petit peu aussi comment tout ce travail-là se construit.
Maintenant, pourriez-vous me parler du 109 en tant qu'ancien directeur ?
On ne peut pas vraiment dire que je suis un ancien directeur, c'est un peu plus compliqué que ça. En tout cas, pour reprendre le fil de l'histoire que je disais tout à l'heure, en 2008, le CHU nous a demandé donc de rendre la fondation d'Abré, dont je vous parlais. Il se trouvait qu'il n'avait plus rien à nous proposer. Puis de plus, la direction avait changé au sein du CHU et ils étaient moins enclins à vouloir nous aider à continuer ce partenariat. Et donc, en 2008, c'est l'année où Christian Estrosi a été élu maire et avait fait une campagne très tournée vers la création associative dans la ville de Nice et autour de l'art contemporain, et avait donc fait quelques promesses qui ont été tenues du coup après son élection, Et après quelques échanges avec lui et ses services, il nous a été proposé de nous installer, donc d'installer la station, qui n'avait donc plus de destination, puisqu'on devait, quand on devait rendre le bâtiment, ben, on n'en avait pas d'autre. Et finalement, donc en octobre 2008, le maire nous a indiqué qu'on pourrait s'installer dans les anciens abattoirs de la ville de Nice. Et ça, les anciens abattoirs de la ville de Nice, c'était à peu près la seule friche connue dans Nice. Il n'y en a pas beaucoup comme ça, il y en a très très peu. Et c'était un peu ce qui faisait rêver tout le tissu culturel quand même associatif de la ville, puisque c'est un endroit où il y a 20 000 mètres carrés de bâtiments abandonnés, avec une très grande halle. Enfin voilà, c'était quelque chose qui laissait augurer un développement assez intéressant dans ce local-là. On a bien sûr tout de suite accepté, et il a donc décidé de nous octroyer 1 000 mètres carrés sur ces 20 000 mètres carrés, dans lesquels il a fallu faire bien sûr des transformations et des rénovations pour pouvoir adapter le lieu à notre activité. Il y a eu un an de travaux pour pouvoir créer l'agencement de ces locaux pour pouvoir d'un côté accueillir du public pour les expositions et d'un autre d'avoir des ateliers pour pouvoir accueillir les résidents de la station, les résidents permanents qui donc travaillent à cette entreprise d'organisation du lieu mais en même temps travaillent sur leur propre recherche artistique. Et donc là, dans les anciens abattoirs, on a retrouvé l'esprit de la première station, donc cet objet industriel voilà, qui se transforme en lieu de création, sauf que là, c'était plus fonctionnel et beaucoup plus grand. Et donc depuis 2009, octobre 2009, c'est la première exposition qu'on ait organisée donc, aux abattoirs. C'est la première fois où du public venait pour une activité artistique. C'était une exposition qui s'appelait Écotone. Et c'était une exposition collective autour d'artistes qui travaillent plutôt du monde animal, un peu végétal aussi. Écotone, c'est un terme qu'on utilise en géographie et qui est une limite entre deux écosystèmes, en fait. C'est la limite brutale entre deux écosystèmes. Donc, ce qu'on peut dire, c'est quand le randonneur se fait attaquer par une puma, quoi, en fait. Voilà, c'est l'endroit où on passe d'une zone qui peut être civilisé à une zone sauvage ou de deux écosystèmes radicalement différents, donc entre la steppe et le désert. Enfin voilà, donc c'est des endroits où il y a des transformations brutales et vives, où on change carrément d'univers. Et pour nous, cette idée, c'était que vraiment là, il y avait cet effet de transformation de ces locaux qui était aussi pour les gens, autant pour les artistes, c'était un lieu dont on avait hâte de pouvoir se saisir pour pouvoir travailler, mais autant le public était un peu plus réticent du fait de son histoire d'abattoir. Donc ça brosse tout un imaginaire très sanglant et très un peu affreux, quoi. Puis les gens ont peur d'être choqués. Et donc il fallait pouvoir faire cette transition, quoi. Et finalement, ça se passe assez bien. Et ce lieu se transforme petit à petit d'une manière de plus en plus tournée vers la création.
Qu'auriez-vous à suggérer pour améliorer le 109 ?
Alors, comme vous l'avez compris, ça va faire 10 ans bientôt que le 109 a pris son essor, son élan. Donc, il y a eu une progression qui est nette et notable. Donc, au départ, il n'y avait que la station. Ensuite, il y a eu le chantier 109. En même temps, il y a eu l'installation de la compagnie Antipode, qui est donc une compagnie qui fait de la danse contemporaine en extérieur, quoi, en dehors d'endroits conventionnels en tout cas, et qui donc dès 2009-2010 a aussi expérimenté le lieu avec cette activité-là de danse. Mais donc on n'était pas beaucoup, quoi, hein, donc le lieu était vide, on était dans un lieu très grand, assez vide, et on a réussi à drainer notre public. Et puis moi, petit à petit, avec le lieu tel qu'il s'offrait, j'ai vu les possibilités autres que celles de faire des expositions d'art contemporain. Et tout de suite, je me suis dit, il faut absolument mélanger les médiums et inviter d'autres activités au sein de notre lieu entre les programmations de nos expos. Donc, c'est comme ça que j'ai invité Panda pour qu'ils viennent faire leur première fois le UK Festival, donc une soirée électro, musicale et très, très concert. J'ai aussi invité Héliotrope, qui a fait quelques soirées dans son festival du court-métrage. On a invité des troupes de théâtre qui voulaient un peu un espace pour travailler, qui avaient besoin d'un lieu un peu de résidence, parce qu'ils n'avaient pas tellement le choix. Et comme notre salle d'expo est assez grande et assez volumineuse, ben, entre des expos, on pouvait leur prêter. Et on a organisé des performances, des lectures, on a fait voilà, toutes sortes de choses qui étaient dans la volonté aussi d'ouvrir le lieu et de brasser le public et de montrer aussi que ce lieu pouvait offrir une programmation beaucoup plus éclectique. Donc cet éclectisme et cette ouverture cette ouverture du panel artistique, à mon avis, doit continuer à s'opérer. Donc depuis 2016 est venu s'installer l'Entrepont avec toutes les compagnies qui le fédèrent, notamment les compagnies créatrices de l'Entrepont, mais aussi celles qui adhèrent à Entrepont et plus les compagnies qu'ils accueillent en résidence, ce qui augmente aussi les propositions artistiques et le travail de recherche artistique qui peut se faire. Mais donc il y a aussi le Forum d'urbanisme et d'architecture qui s'y est installé aussi en 2016, donc là qui a un gros travail autour de l'architecture et aussi de l'éducation autour de l'architecture. Donc, il fait beaucoup d'activités avec les scolaires, mais qui organise beaucoup de conférences, beaucoup de choses très, très pédagogiques autour de cette question. Et puis, il y a aussi les 29 ateliers de la ville de Nice installés. Donc là, chaque artiste a son espace de travail qu'il loue à la ville de Nice. Donc, il a été sélectionné sur commission et il a 3 ans pour travailler sur ses propres recherches. Et donc la compagnie Antipode maintenant aussi qui a son studio, donc le studio Antipode depuis aussi 2016-2017 et voire 2018 même, je crois que le studio a été terminé en 2018 et qui maintenant aussi a son travail propre de recherche artistique pour leur propre compagnie mais aussi d'accueil d'autres compagnies et aussi de programmation, voilà. Et donc, ce panel qui s'est vraiment grandement élargi maintenant nécessiterait qu'on puisse rénover d'autres locaux au sein du site, puisque pour le moment, il n'y a qu'un gros tiers du bâtiment qui a été rénové. Il reste encore 2 tiers à rénover, en y apportant donc d'autres activités artistiques et aussi des activités économiques qui semblent aussi essentielles maintenant dans le développement d'une recherche artistique, parce que ces choses-là me semblent tout à fait aptes à pouvoir collaborer. Donc avec peut-être des entreprises qui travaillent sur le spectacle, sur de l'innovation, bien sûr, et les nouvelles technologies, ça c'est très important. Mais aussi, il faudrait des lieux de vie, comme un restaurant, comme des bars, certainement un club, voilà. J'ai oublié de dire aussi qu'au 109, depuis 2017, il y a une salle de concert maintenant qui s'appelle le Frigo 16, qui est gérée par la ville, mais qui est aussi... peut être à mise à disposition sous condition par des producteurs de concerts et d'événements. Et il y a la grande halle aussi, cette grande halle dans laquelle peut se développer aussi beaucoup d'événements, soit d'expositions artistiques, soit de congrès ou de salons. Il y a eu le salon autour des nouvelles technologies tournées vers les enfants. Enfin, il y a eu déjà pas mal de choses, mais qui nécessiteraient un accroissement dans la régularité de la programmation et une meilleure structuration, un meilleur équipement.
Vous auriez quelque chose à ajouter ?
Ben, c'est une aventure assez extraordinaire et c'est essentiel de pouvoir développer un projet comme celui-ci quand on est vraiment impliqué dans la vie artistique d'un local. Une vie artistique locale qui a des résonances, bien sûr, à l'extérieur de nos frontières. Et ce qui est pour moi aussi très important, c'est d'être en connexion et en collaboration avec d'autres artistes et d'autres pratiques et d'autres médiums, parce qu'on ne crée pas tout seul. La création artistique, ce n'est pas quelque chose qui se fait dans la solitude et en étant coupé du monde, mais c'est vraiment quelque chose qui se fait d'une manière qui peut se faire d'une manière collective et en tout cas collaborationnelle, si je puis employer cet euphémisme. Mais surtout, ce qui est intéressant aussi dans un lieu comme celui-ci, c'est de pouvoir montrer au public aussi le au plus près de la création, c'est-à-dire de montrer le moment où vraiment les choses se créent, s'inventent et se développent, et le livrer au public comme ça d'une manière très crue et qui peut être aussi de manière très expérimentale. Mais c'est moi, à mon sens, c'est la vocation d'un lieu comme celui-là, qui n'est pas la même que celui d'un musée ou d'un centre d'art ou d'un théâtre national ou d'un théâtre privé, enfin, où on montre des choses qui sont déjà bien reconnues, bien connues et bien éprouvées. Ici, c'est vraiment un laboratoire où on peut montrer comment se développe l'idée de la création et comment elle peut se nourrir et comment elle peut s'enrichir avec la proximité du public et d'autres créateurs.
Merci.